de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux,
les infos de l'Indonésie,
l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec le titre. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a discuté du renforcement de la coopération dans le domaine de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Roro Esti explique les étapes pour atteindre les objectifs de développement durable lors de la session de l'UIP au Vietnam. L'Indonésie et la Jordanie renforcent leurs relations bilatérales. Chers amis, nous présentons maintenant le journal en complet. Le ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a tenu une réunion bilatérale avec le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Hanke Breunsloot, en mars de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, les États-Unis, vendredi 22 septembre. Au début de la réunion, le ministre Retno Marsudi a félicité le ministre Sloot en tant que nouvelle ministre néerlandaise des Affaires étrangères et a salué les projets visant à renforcer la coopération entre les deux pays, y compris la visite de travail prévue de la ministre des Affaires étrangères Sloot à Jakarta le mois prochain. Le ministre des Affaires étrangères, dans un communiqué à Jakarta samedi, a déclaré que la ministre Hanke Breunsloot a exprimé son appréciation pour les bonnes relations bilatérales entre l'Indonésie et les Pays-Bas jusqu'à présent. Les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de l'importance de continuer à renforcer les partenariats, y compris dans le domaine de la transition énergétique et de la sécurité alimentaire. La ministre Retno a déclaré son appréciation pour le soutien des Pays-Bas à la candidature de l'Indonésie à l'Organisation de coopération et de développement économique. En mars de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies, la ministre Retno Marsudi a également échangé des vœux sur la situation au Myanmar avec Mme Mirjana Spoljarić, la présidente de la Croix-Rouge internationale. Au cours de la réunion, Mirjana a exprimé son appréciation pour le soutien de l'Indonésie à la présidente de la Croix-Rouge internationale jusqu'à présent et espère renforcer davantage les relations entre l'Indonésie et CICR à travers diverses collaborations et dialogues. Concernant le Myanmar, a déclaré Retno Marsudi, le consensus en 5 points reste la référence principale pour résoudre le problème du Myanmar. Le ministre Retno Marsudi a souligné que l'Indonésie continuerait à s'engager à aider le peuple du Myanmar, y compris après la fin de sa présidence par le mécanisme de la Troïka. Le membre de la Chambre des représentants, Dia Roro Esti, a expliqué des mesures que le pays devait prendre pour atteindre les objectifs de développement durable tout en précédant de la séance de clôture de l'Union interparlementaire de la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires dans la ville de Hanoï, le Vietnam. Diaroro dans sa déclaration citée par Antara samedi a déclaré: la première étape consiste à accélérer la transformation numérique, l'innovation et également les start-up comme fondement du développement afin qu'une croissance économique fiable puisse être réalisée. Ensuite, le respect mutuel et le respect de la diversité culturelle est également l'une des étapes visant à accélérer les objectifs de développement durable qui sont conformes à la devise de l'Indonésie, à savoir Bhinneka Tunggal Ika. En outre, l'accélération du développement doit également s'accompagner de l'utilisation d'une technologie utilisée de manière positive et responsable pour prévenir les risques à l'avenir. La clôture de la séance plénière de l'Union interparlementaire a été assistée, entre autres, par le président du Parlement vietnamien, Vuong Dinh Hu, le président de l'Union interparlementaire, Duarte Pacheco, et environ 300 parlementaires du monde entier. En marge de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, et le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Hussein Safadi, ont signé un protocole d'accord concernant la session conjointe de la Commission pour renforcer les relations bilatérales entre l'Indonésie et Jordanie, vendredi 22 septembre. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué officiel reçu à Jakarta samedi: ce protocole d'accord constituera la base principale de divers cadres de coopération plus larges entre les deux pays. La session de la Commission conjointe de l'Indonésie et la Jordanie consiste en mécanisme pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux pays et évaluer la mise en œuvre des programmes convenus. Les domaines réglementés dans le MOU comprennent la coopération politique et juridique, la coopération technique, socioculturelle et économique. Avec la signature du MOU, l'Indonésie et la Jordanie sont prêtes à mettre en œuvre le quatrième SKB avec un domaine de travail plus large. Le gouvernement de la région de Belitung, dans la province des îles de Bangka Belitung, est prêt à exporter les produits marins de cette région sous forme de poissons frais vers l'Ouzbékistan pour augmenter les revenus des pêcheurs et répondre aux besoins du marché de ce pays. Le régent de Belitung, Sahani Saleh, après avoir rencontré l'ambassadeur d'Ouzbékistan en Indonésie, Muzaffar S. Abduazimov, à Tanjung Pandan vendredi, a déclaré: l'Ouzbékistan veut des produits de Belitung comme du poisson frais. Selon lui, lors de la réunion, Belitung et l'Ouzbékistan ont convenu de collaborer sur l'échange de produits agricoles, de la pêche et des micro, petites et moyennes entreprises à travers un programme commercial mutuellement avantageux. Outre les produits de la pêche fraîche, l'ambassadeur Muzaffar est également intéressé par l'échange de produits agricoles et produits de plantation. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la rubrique L'accueil diplomatique, intitulée « Le gouvernement de la ville de Madiun fait la promotion du potentiel des micro, petites et moyennes entreprises auprès de la délégation kényane ». Le gouvernement de la ville de Madiun, Jaffa Ace, fait la promotion du potentiel des micro, petites et moyennes entreprises à la délégation de l'État kényane. La délégation est en visite de travail dans la ville de Madiun pour mener une étude sur la famille postnatale, planification et retard de croissance. La promotion est réalisée au point de vente Conseil national régional de l'artisanat dans le parc Sumberwangi dans le quartier de Pahlawan Street Center Madiun. Le maire de Madiun, M. Maidi, a déclaré jeudi: c'était une bonne occasion de présenter tout le potentiel de la ville de Madiun, non seulement en matière de planification familiale et de gestion du retard de croissance, mais aussi divers produits des petites et micro-entreprises. Un certain nombre de produits MPME introduits comprennent des aliments typiques de Madiun, tels que le sambal pecel et le madu mongso. Le gouvernement de la ville de Madiun introduit également le batik typique de Madiun ainsi que divers produits artisanaux fabriqués par des artisans locaux et des micro, petites et moyennes entreprises. À travers ces activités promotionnelles, le maire de Madiun espère qu'à l'avenir, il y aura un suivi sous la forme de coopération bilatérale entre les deux pays. Le chef de la délégation kényane, Muhammad Abdikar Cheikh, a déclaré qu'il était très intéressé par les différents produits de micro, petites et moyennes entreprises de la ville de Madiun. Il a évalué que la ville de Madiun n'était pas seulement bonne dans le domaine de la planification familiale après l'accouchement et de la réduction des cas de retard de croissance, mais aussi dans le secteur économique, notamment les micro, petites et moyennes entreprises. Lui et son équipe ont admis avoir été très impressionnés lors de leur visite de travail à Madiun. La délégation kényane et bangladaise s'est rendue en Indonésie pour participer aux activités de formation en santé, notamment sur la planification familiale et la reproduction à Madiun. Pendant son séjour dans la ville de Madiun, le groupe a visité plusieurs endroits, entre autres l'hôpital général régional de la ville de Madiun, le village de planification familiale Prosper, sous-district de Klegen, et du parc Ngrowo Bening, et le centre de santé communautaire de Sukosari. Chers amis, c'était la rubrique d'acquis diplomatique de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
La Voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le Quiz International Voice of Indonesia, La Voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 enregistrements, dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts. Qui sait que vous devenez l'un des gagnants?
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 23 septembre 1932 et l'unification de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est le plus grand pays du Moyen-Orient et une puissance régionale dans la région. L'Arabie Saoudite était auparavant divisée en quatre régions différentes, chacune nommée Hejaz, Najd, Asir et Al-Ahsa. L'unification de l'Arabie Saoudite a été déclarée achevée le 23 septembre 1932. Le mouvement d'unification qui a été commencé en 1902 était mené par Ibn Saud qui est devenu également le premier roi d'Arabie Saoudite. Cette unification a été commencée avec le contrôle de la région de Riyad qu'il considérait comme la terre ancestrale de la famille Saoud. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite fait partie des pays avec lesquels il faut compter parce qu'elle est le plus grand exportateur de pétrole dans le monde. Le 23 septembre est la journée nationale de la marine. Le premier président de la République d'Indonésie, Sukarno, a publié le décret numéro 249 l'année 1964 concernant la désignation du 23 septembre comme Journée nationale de la mer. Cela correspond à sa détermination à faire de l'Indonésie un pays maritime prospère. Citant le site officiel du ministère de la Communication et de l'Information, la détermination de la Journée nationale maritime a été basée sur la première conférence nationale maritime qui a eu lieu le 23 septembre 1963. La Journée nationale de la mer vise à faire prendre conscience au public du grand potentiel de l'Indonésie en tant que pays maritime. Nous terminons cette histoire d'aujourd'hui avec le 23 septembre et la Journée internationale de la langue des signes. Le 23 septembre a été choisi comme Journée internationale de la langue des signes parce que c'est la date de la fondation de la Fédération mondiale des sourds en 1951 à Helsinki, la Finlande. L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré la Journée internationale de la langue des signes en 2017. Cette journée a été créée sur la base d'une demande initiale de la Fédération mondiale des sourds. L'objectif de la création de la Journée internationale de la langue des signes est pour accroître la sensibilisation sur la langue des signes et renforcer son statut non seulement au sein de la communauté des sourds. Selon les données de la Fédération mondiale des sourds, plus de 80% des personnes sourdes vivent actuellement dans des pays en développement. Collectivement, ils utilisent plus de 300 langues des signes différentes. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Kisahku hanya Kamu bilang cinta itu bisa hilang, kemana perginya?
C'était la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à notre antenne, la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Cette fois, nous allons vous présenter... L'économie indonésienne est assez solide et sous contrôle, a déclaré la ministre indonésienne des Finances, Madame Sri Mulyani. La ministre des Finances, Madame Sri Mulyani Indrawati, a déclaré que les conditions économiques de l'Indonésie étaient assez solides et sous contrôle, bien que le pays soit confronté au choc et à la faiblesse mondiale. Dans un contexte de fluctuation de l'économie mondiale, la croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre devrait continuer à accroître positivement, soutenu par une inflation maîtrisée, un excédent de la balance commerciale et une amélioration du pouvoir d'achat de la population. La ministre des Finances, lors de la conférence de presse en ligne intitulée « Notre APBN » mercredi, a estimé que la croissance économique de l'Indonésie au troisième trimestre resterait supérieur à 5%. Le ministre a déclaré que jusqu'en août 2023, l'indice des directeurs d'achat ou PMI manufacturier indonésien a continué de se renforcer et se situer dans la zone expansive au niveau 53,9 meilleur que la Chine, le Japon, les États-Unis et l'Europe. Cette réalisation est en augmentation par rapport à juin 2023, qui était au niveau de 52,5. En outre, la balance commerciale est également restée excédentaire pendant 40 mois consécutifs, même si les exportations et les importations connaissaient toujours une tendance à la baisse. L'excédent de la balance commerciale en août était de 3,2 milliards de dollars américains. L'excédent cumulé de la balance commerciale de janvier jusqu'à août 2023 est de 24,34 milliards de dollars américains. En revanche, le taux d'inflation intérieure est sous contrôle, soutenu par une inflation alimentaire stable. L'inflation en août a été enregistrée à -0,02%, 1,40% ou 3,3%. Le ministre des Finances a déclaré que l'inflation indonésienne montrait un assez bon niveau comparé à celle des pays asiatiques et des pays du G20. L'inflation indonésienne se situe dans une situation relativement faible. Dans le même temps, l'activité économique antérieure de l'Indonésie fait toujours preuve de résilience et d'une reprise soutenue. L'optimisme du public est assez élevé au niveau 125,25. Le gouvernement garantit la présence et le rôle du budget des recettes et des dépenses de l'État ou APBN pour protéger le bien-être de la population et maintenir la stabilité économique face à la dynamique économique. APBN, en tant que force motrice et outil de sécurité, devrait accélérer la croissance économique, protéger et apporter de réels avantages à la société. Sri Mulyani a souligné qu'un budget des recettes et des dépenses de l'État sans effort pour protéger la société et maintenir la dynamique économique de l'Indonésie pour continuer à croître et à se redresser. Mais il faut rester vigilant parce que les conditions mondiales auront lentement et sûrement un impact sur le budget des recettes et des dépenses de l'État et aussi l'économie nationale. Ainsi, selon la ministre, l'Indonésie doit continuer à maintenir la santé du budget des recherches et des dépenses de l'État et de l'économie en continuant à calibrer les mouvements économiques et la dynamique mondiale. Chers amis, c'était la rubrique Mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Voice of Indonesia.
Lewat postinganmu, terbuka hatiku,
tersenyumku sendiri.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici magazine culturel. Cette fois, nous allons vous présenter Mugono, un plat typique de la côte nord du centre de Java. Mugono est un plat typique du centre de Java à base de morceaux de jeunes jacquiers mélangés à de noix de coco râpées qui est assaisonnée pour créer un goût savoureux. Mugono est originaire de la région de Pekalongan sur la côte nord de Java. Ensuite, il s'est développé dans la ville de Pekalongan, le district de Batang, le district de Pemalang, le district de Wonosobo et le district de Temanggung. Les valeurs historiques et culturelles ont conduit à la création du Mugono comme plat pour les guerriers. Mugono vient du japonais Mergo, qui signifie pasque, et Ana, qui signifie existe. Cette nourriture provient d'un plat offert aux troupes du sultanat de Mataram sous la direction de Bahu Reksa, qui veut lutter contre les VOC à Batavia en 1628. La guerre a causé des difficultés à l'économie populaire. À cette époque, lorsqu'un groupe de soldats de Mataram entré dans le district de Pekalongan pour se reposer, fatigués et affamés, les habitants travaillaient ensemble pour collecter de la nourriture dans chaque maison afin de la donner aux troupes affamées. En raison de la difficulté, les habitants ont pris l'initiative de chercher des légumes et ce qui était trouvé n'était que de jeunes jacquiers largement plantés par les habitants de Pekalongan. En peu de temps, le jeune jacquier est préparé avec un assaisonnement de noix de coco râpée. Depuis lors, ce repas s'appelait Mugono. Mais s'il s'agit d'un aliment simple, le jeune jacquier est censé renforcer l'immunité et constitue une source antioxydant utile pour renforcer la force physique des troupes combattantes en guerre à cette époque. Ce n'est pas difficile de faire ce Mugono. Le jeune jacquier est pelé, puis haché ou tranché finement en petits morceaux, puis mis dans un récipient. Ensuite, ajoutez la noix de coco râpée finement hachée, les échalotes, l'ail, la coriandre, les noix de bougi, la pâte de crevette, le kencur, les piments rouges, la citronnelle, les feuilles de melinjo, les feuilles de laurier, les feuilles de citron vert et les épices, et ensuite remuez jusqu'à ce que le mélange soit homogène, puis faites cuire à la vapeur pendant environ 45 minutes à 1 heure jusqu'à ce que le jacquier devienne mou et que les arômes soient absorbés. La couleur mûre et le goût principal de Mugono sont influencés par les épices utilisées et généralement lorsqu'il est mûr, il est jaune brunâtre. Le goût savoureux est influencé par la noix de coco râpée. De nos jours, le Mogono est généralement servi avec du riz blanc, des calamars cuits noirs, des œufs durs, de mandouane, du tempeh orek, du concombre et de la sauce chili. Mogono est généralement emballé dans les feuilles de bananier pour renforcer son arôme et le rendre plus parfumé et délicieux. Si vous êtes de passage sur la côte nord du centre de Java, prenez le temps de goûter au Mogono, qui est un plat populaire dans les stands de nourriture, les restaurants et la street food de la région. Chers amis, c'était Magazine culturel de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta, intitulé Mogono, un plat typique de la côte nord du centre de Java. Merci à tous et à bientôt.
Jalan derita tidak pernah kuduga ini semua terjadi. Oh, 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 oh. Janganlah engkau menghancurkan segala setelah lawan kita mengarungi bersama. Kita yang suci di lambung ngembak garam di lautan berduri. Hanya satu pintaku, semoga kau perbaiki. Oh, 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 oh. Semua ini telah banyak yang ku beri sejak dulu. Pengorbanan tiada pernah jemu. Terima kasih.
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique l'Indonésie en couleur. Cette fois, nous allons présenter Festival culturel Balik Sepaku IKN 2023. Le Festival culturel Balik 2023 se tiendra à Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental. Le district de Sepaku est situé dans la région de Penajam Pasir, qui est l'emplacement de 0.0 km de la capitale de l'archipel. Pendant ce temps, Balik est le nom d'une tribu qui vit à Sepaku depuis la période pré-indépendance de la République d'Indonésie. Mais si l'on se réfère au folklore, la tribu Balik existe depuis le 18e siècle sous le règne de Sultanat Pasir. En tant que tribu autochtone Sepaku, la culture Balik colorera bien sûr les caractéristiques de la capitale de l'archipel, mais les arts et la culture de la tribu Balik ne sont pas encore bien exposés dans la société indonésienne. Avant de présenter la tribu Balik ou tribu des Pasir Balik à la communauté, le gouvernement et la communauté Sepaku organisent le Festival Balik du 22 au 24 septembre 2023. Yati Dahlia, la présidente du comité du Festival culturel Balik 2023, a déclaré que cet événement était une grande scène pour présenter et introduire diverses cultures inspirées par la sagesse locale de la tribu Balik. Il est important de connaître la culture de la tribu Balik parce qu'elle colorera le caractère unique de la capitale de l'archipel. La tribu Balik vivait à IKN avant l'indépendance de l'Indonésie. Nous sommes ici depuis l'ère du royaume et la tribu Balik. Et ce que nous voulons montrer, c'est la danse ronggeng typique de la tribu Balik. Les activités de guérison traditionnelles et les plats typiques qui deviendront à l'avenir des spécialités culinaires typiques de IKN. Yati Dahlia a déclaré que l'ouverture du Festival culturel de Balik 2023 s'est déroulée en présence du chef de l'autorité IKN, du régent de Penajam Pasir et des responsables du gouvernement local, des institutions traditionnelles et du grand public. Elle espère également qu'avec ce festival, les arts et les traditions de la tribu Balik seront connus de la communauté au sein large. On espère que les tribus indigènes de IKN seront connues et reconnues par le grand public qui vient à IKN avec leur culture et leur coutume. L'espoir est qu'à l'avenir, cela puisse devenir un programme annuel. Chers amis, c'était la rubrique l'Indonésie en couleur de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à bientôt.
pertama ku bertemu denganmu, manisnya senyumanmu membekas dalam kalbu. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersayang. Itu kamu di dalam hatiku, hanya kamu bidadari surgaku. Oh, maukah kamu menjadi pendamping dalam hidupku yang akan selalu temani hidupku ini, dan kan ku berikan semua taman surga di dunia. Kini ku rasa ku telah jatuh cinta pada sosok malaikat yang tiada bersama.
La voix de l'Indonésie revient à la tenue du Voix International Quiz 2023. Cette année, le quiz international Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie 2023 est sous la forme d'un concours d'écriture. Écrivez un essai sur l'une des 5 destinations touristiques super prioritaires d'Indonésie, Borobudur, Lac Toba, Likupang, Mandalika et Labuan Bajo, d'une longueur de 700 à 800 mots, Arial 12 et 16 ans, enregistrement. Dans la forme d'audio, concours de rédaction ouvert du 10 avril au 20 août 2023. Envoyez votre essai et les résultats de l'enregistrement audio par courriel voicequiz2023@gmail.com. Pour les personnes sélectionnées comme gagnants, une personne pour chaque service linguistique recevra des prix attractifs de la Voix de l'Indonésie. Le gagnant sera annoncé dans le moment 78e journée de radio, le 11 septembre 2023. Pour plus d'informations complètes, veuillez visiter notre site web www.voinews.id et Facebook de The Voice of Indonesia. Soyez prêts, qui sait que vous devenez l'un des gagnants.
Voilà la dernière chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Voici le magazine musical. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson de Keroncong intitulée Dewi Murni, chantée par Toto Salmon. Cette chanson créée par Sariwono ou Ocin Nur Kasim a été popularisée par Toto Salmon et a également été chantée par Mus Mulyadi et d'autres chanteurs de Keroncong. La chanson dont le titre est Dewi Murni raconte de la beauté des déesses qui descendent se baigner dans le lac des dieux. Bon, chers auditeurs, voici Toto Salmon dont le titre est Dewi Murni. Bonne écoute!
Berkembangkan sutramu melambai meriah rasa, semerbak memenuhi angkasa berangin. Thank you. sampai meriah rasa. Semerbak memenuhi angkasa berapi
Voice of Indonesia.
Voilà l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.